Le Cluster Montagne est le réseau des acteurs de la filière de l'aménagement touristique de la montagne. Et nous avons le grand plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans notre 7e podcast de notre série des Clusters Montagne Insights. Bonjour et bienvenue, je suis Élodie Coutin, responsable communication, promotion et événements du Cluster Montagne. Et je vais vous guider tout au long de votre écoute dans cette série. Nous sommes en 2022 et c'est une année assez particulière pour le Cluster Montagne, puisque nous fêtons les 10 ans de l'association. Aussi, nous avions à cœur de revenir sur notre histoire, nos valeurs et surtout notre stratégie de développement. Le Cluster Montagne permet de faciliter le développement des entreprises au bénéfice des territoires en articulant son action autour de 4 piliers stratégiques : le réseau, l'innovation, la croissance et le développement durable. À chaque épisode, nous irons à la rencontre de membres, de partenaires, pour qu'ils puissent nous partager leurs expériences, leur savoir-faire, un de leurs souvenirs sur notre association, ou encore imaginer ensemble l'avenir de la filière. Aujourd'hui, je vous propose de parler de prospective. Car le Cluster Montagne anime un club prospective montagne pour contribuer à une réflexion collective sur le futur de la filière et du tourisme. Fruit des travaux de ce club, un cahier de tendance montagne est édité chaque année depuis 2019 par le Cluster Montagne et en partenariat avec le Crédit Agricole des Savoies. Nous allons passer un petit moment avec Olivier Pastor, expert en gouvernance partagée, et Cyril Goutenoir, directeur du pôle tourisme du Crédit Agricole des Savoies. Bonne écoute à tous. Bonjour Olivier, bonjour Cyril.
Bonjour Elodie.
Bonjour Elodie.
Alors Olivier, tu es contributeur du cahier de tendance montagne 4e édition, qui est fraîchement édité. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît ?
Bien sûr. Alors je suis entrepreneur au sein de la coopérative Oxalis. Je peux dire de moi que je suis haut-savoyard vivant à Chambéry. Et j'accompagne depuis 12 ans des organisations, soit dans l'évolution de leur mode de fonctionnement, soit dans l'actualisation de leur positionnement au regard des évolutions de notre modèle de société.
Très bien, merci. Cyril, pourrais-tu à ton tour te présenter, ainsi que le Crédit Agricole des Savoies que tu représentes, et plus particulièrement le pôle tourisme que tu diriges ?
Alors me concernant, moi je suis le directeur justement du pôle tourisme. Ce pôle tourisme, il est intégré dans le Crédit Agricole des Savoies, qui est un acteur important du monde de la montagne. Évidemment, on a sur les 165 agences du Crédit Agricole, on en a quand même 47 qui sont en station. Et sur les 47, on a aussi un pôle tourisme que j'anime. Et ce pôle tourisme, il a vocation à réunir des experts. On a une dizaine, j'ai quatre chargés d'affaires et des collaborateurs qui travaillent avec les entreprises pour travailler sur les flux notamment. Et donc, on a vocation à réunir des experts pour mieux comprendre le monde de la montagne, le monde du tourisme et répondre aux besoins de nos clients, tant sur la partie bancaire traditionnelle que sur les investissements, que également en fonds propres.
Le Crédit Agricole des Savoies est un partenaire historique du Cluster Montagne. Pourquoi avoir pris ce virage il y a 4 ans avec le renforcement du partenariat, avec un partenariat stratégique dédié à la prospective et particulièrement le livrable du cahier de tendance montagne ?
C'est certain que la montagne va connaître de profondes mutations dans les prochaines années et on doit engager sa transformation. Et donc, que ce soit au niveau des risques climatiques, du modèle économique, puisqu'il est quand même à maturité, on doit observer les changements sociétaux. Et je dirais, s'associer au Cluster Montagne avec un cahier des tendances qui est là pour penser la montagne de demain, ça nous paraissait véritablement évident. Et en tant que banquier, je dirais que quand on prête à 5, 10, 15, 20 ans, on est déjà dans l'avenir. Et donc, on doit imaginer ce que sera l'avenir de la montagne, ce que sera l'avenir de nos clients. Et est-ce qu'ils seront en mesure de nous rembourser en fonction de leur modèle économique.
Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Olivier, dans ta contribution, tu fais appel à la notion de transition. Mais pour toi, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ?
Il se cache une multitude de choses de nature différente. La transition, c'est d'abord la prise de conscience de l'impact de nos activités humaines sur l'écosystème Terre, impact sur les ressources, le climat, la biodiversité. C'est aussi l'intégration des limites qui s'imposent à nous et mettent à mal un modèle de société reposant sur le toujours plus, une croissance qui pourrait être infinie dans un monde qui, lui, ne l'est pas. Ce modèle ne tient plus et appelle à considérer des transformations en profondeur. Cette notion, elle semble à peu près acquise, mais dès lors qu'on a passé ce stade de compréhension des enjeux sur nos écosystèmes, vient alors la question du comment. Comment se mettre en ordre de marche pour amener des solutions qui soient à la hauteur des enjeux. La transition n'est pas un sujet techno. On ne s'en sortira pas en faisant juste des innovations technologiques. Et il y a rarement, sur ces sujets-là, de solutions simples. C'est un changement profond de paradigme qui va convoquer nos responsabilités individuelles, nos responsabilités collectives, nos responsabilités politiques, nos responsabilités de chef d'entreprise. Elle touche à des plans politiques, économiques, sociaux, et c'est ce qui me fait dire que la coopération n'est dès lors plus un choix, mais une condition nécessaire à mettre en œuvre pour réussir à conduire cette transition.
Merci Olivier. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu les choses pour la filière montagne ?
Pour l'écosystème particulier qu'est la montagne, il y a un impact du réchauffement climatique qui est beaucoup plus fort. On estime que si on considère aujourd'hui que l'hémisphère nord se réchauffe à peu près à un niveau de 1 degré, la région des Alpes serait, elle, au double. Ce qui est assez simple, c'est de comprendre que si on fait remonter le niveau de la neige de 150 mètres par degré supplémentaire, eh bien ça vient considérablement impacter les modèles des stations, en tout cas de moyenne altitude. Et ce n'est pas les investissements d'installations, de neige de culture, qui peuvent répondre à elles seules à ces enjeux s'il n'y a pas assez d'eau ou s'il n'y a tout simplement plus assez de température adéquate pour produire cette neige de culture. Nous avons donc un problème. Et cette montagne ne manque pas d'imagination pour nous servir à une multitude de problématiques qui ont la fâcheuse tendance de nous enfermer dans une dualité. On est pour ou contre le loup à la montagne, on est pour ou contre les canons à neige, on est pour ou contre les retenues d'eau collinaires. Et il est fort probable que tant qu'on reste dans le clan des pour ou des anti, des contre, que nous arrivions à prendre des décisions qui soient à la hauteur des enjeux.
Merci. Il me semble aussi que tu indiques l'importance du travail collaboratif dans les structures, avec notamment la mise en place de process. Pour toi, justement, quelles seraient les bonnes pratiques pour engager la ou une transition dans une structure ?
Je crois qu'il nous faut reconnaître que nos bonnes vieilles organisations, pyramidales, centralisées, ont été les formes d'organisation humaine les plus à même de répondre aux enjeux d'une société qui s'inscrivait dans une logique de croissance, de toujours plus, d'innovation, de performance économique, et qu'aujourd'hui, elles peinent à répondre à la complexité qui est nécessaire de traiter dès lors qu'on s'empare de ces sujets de transition. On le voit à l'échelle d'une station que la question du tourisme, la question du logement dans les stations, la question des moyens de transport qui nous permettent d'arriver dans les stations sont des sujets qui ont tendance à être organisés en silo dans nos collectivités, comme bien souvent d'ailleurs dans nos entreprises. Et si on n'a pas de capacité à dessiloter nos organisations, à produire des solutions dans la transversalité, à se mettre d'accord, alors, un, on ne prendra pas des décisions qui soient à l'auteur des enjeux, mais deux, il est fort probable que ces décisions, on rencontre beaucoup de difficultés pour les mettre en œuvre. Ne serait-ce que parce qu'on n'aura pas réussi à créer les conditions d'acceptabilité des changements qu'elles impliquent.
Justement, on a parlé de travail collaboratif. Je crois, Cyril, qu'on est en plein dans le sujet avec ce quatrième opus du cahier de tendance montagne. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît ?
Bien sûr. Alors, ce quatrième volet du cahier des tendances montagne, je trouve que c'est encore un numéro qui grandit, qui devient de plus en plus mature. C'est un outil du quotidien qu'il faut avoir avec soi sur sa table de nuit, par exemple. C'est un outil qui permet d'aller questionner des experts de la montagne, des experts du tourisme, mais pas que, puisque c'est un outil également qui va aller chercher des ouvertures sur d'autres expériences qui sont faites dans d'autres villes, dans d'autres villages, dans d'autres configurations, et également à l'étranger, chez nos confrères qui, eux également, ont des problématiques de réflexion sur la montagne. Donc c'est un magnifique ouvrage que vous pouvez vous procurer, évidemment, soit auprès du cluster montagne, soit auprès du Crédit Agricole des Savoies, puisque nous sommes partenaires, et puis il est en ligne également. C'est un ouvrage qui fait quand même 118 pages, donc on y développe quand même un certain nombre de sujets. On a développé cette année 4 grandes tendances, je dirais.
La première tendance est consacrée au territoire, avec notamment les champs de l'innovation.
Oui, absolument. C'est un véritable enjeu des territoires et de l'innovation dont nous allons parler dans cette première tendance. Et on a, sur les sujets d'ouverture notamment, un très beau témoignage de Jean-François Caron, qui est maire de Los Angeles, qui démontre qu'effectivement, même sur des territoires qui sont... considéré peut-être comme perdu parce qu'en complète désindustrialisation, on arrive à rebondir et à faire des choses intéressantes. Donc ça, c'est des parallèles dont il faut nous inspirer.
Une deuxième partie dédiée à la transition des entreprises. Comment obtenir son permis de conduire ?
Bah encore une fois, la transition, c'est véritablement l'enjeu global. Comment on change de modèle ? Justement, Olivier Pastor y intervient sur ce sujet-là. Dominique Thillot également fait un sujet sur la raison d'être et la transition des entreprises. Dominique Thillot, le directeur général de la Compagnie des Alpes.
La troisième tendance, comment bien comprendre pour bien se faire entendre ? Penser sa communication, mais attention, penser PANSER, sa communication.
Donc là, on a aussi des sujets sur les réseaux sociaux, sur est-ce que les acteurs de la montagne doivent s'intéresser aux données. Enfin voilà, on a un certain nombre de choses qui sont extrêmement intéressantes dans la communication qu'on doit faire. Et je pense que c'est un des axes aussi qui devient de plus en plus sensible, notre communication sur les actions de la montagne.
Et une quatrième partie dédiée au dérèglement juridique. Comment rendre accessible une montagne pour tout le monde ?
Et donc là, on a des sujets de réglementation, de responsabilisation dont on va traiter avec des élus qui interviennent. Et puis globalement, sur toutes ces tendances, on a ce qu'on appelle aussi l'intervention des audacieux. Donc ce sont des personnalités qui vont expliquer en quoi leur action ou en quoi leur réflexion vient un peu compléter ce que viennent dire les experts. Et donc je trouve que ce qu'est des tendances, il est encore une fois extrêmement complet. Il est très facile à lire puisqu'il est bien organisé aussi en chapitres, en interviews, en témoignages. Et donc n'hésitez pas, c'est un document à consommer. Mais sans modération.
Merci Cyril pour cette petite promotion du cahier de tendance montagne. Olivier, de ton côté, quels sont pour toi les principaux challenges à relever pour les destinations de montagne ?
J'ai la sensation qu'il y a toute une génération qui a pu donner vie à ses rêves à grands coups de bulldozer et que cette période est révolue. Et la question est plutôt de se poser la question, quel est notre rêve désormais ? À quoi aspirons-nous pour nos territoires de montagne ? Qu'est-ce qui est désirable ? À ce titre, Tom Wallis, un entrepreneur du Vercors, définissait les écosystèmes de stations de montagne en disant « C'est un écosystème d'acteurs qui tirent tous dans le même sens, sauf qu'il n'y a personne pour donner quel est le sens. » Et je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui un enjeu essentiel à interroger le sens de notre action, nos futurs souhaitables, qu'est-ce qui est désirable pour ces territoires de montagne. Pour cela, pour moi, ça passe par une évolution des schémas de gouvernance territoriaux, une implication des citoyens, une capacité à mettre les acteurs autour de la table, à sortir de la dualité dont je parlais tout à l'heure pour se projeter ensemble vers ce futur désirable. J'accompagne actuellement deux projets qui sont porteurs de cette énergie. Un territoire disposant d'une station de moyenne montagne qui souhaite impliquer l'ensemble de ses citoyens autour de l'avenir de sa station. Et un deuxième projet, plutôt dans le champ des installations, des équipements de la montagne, la Compagnie du Mont-Blanc, pour ne pas les nommer, qui, souhaitant devenir société à mission, c'est-à-dire inscrire à l'intérieur même de ses statuts, ses engagements en matière de responsabilité sociétale et environnementale, vient forcément interroger quelle est sa raison d'être, sa contribution, et quels sont ses impacts, et de fait, quelle est la manière d'envisager leur métier à l'aune des changements qui sont à l'œuvre actuellement en haute altitude.
Très bien, merci Olivier. Cyril, est-ce que tous ces défis, ces challenges auxquels finalement vos clients sont confrontés, ont-ils eu ou ont un impact sur la filière bancaire et particulièrement votre accompagnement au quotidien ?
Alors, je pense qu'on n'en est qu'au début. C'est-à-dire qu'on a pris en compte, nous, au Crédit Agricole des Savoies, l'enjeu il y a maintenant 7 ans, puisqu'on a créé le pôle montagne à l'époque qui s'est transformé en pôle tourisme. Et donc, ça faisait partie de nos sujets de réflexion de dire qu'il faut qu'on crée un pôle d'expertise qui permette de répondre aux enjeux de demain. Mais je crois que la filière bancaire, d'une manière générale, n'a pas encore véritablement pris en considération ces enjeux et que nous devons tous agir sur ces sujets-là, notamment encadrés par des réglementations également. On voit bien qu'au niveau européen, l'Europe a qualifié de ce qu'on appelle la taxonomie européenne, c'est-à-dire qu'on qualifie en gros les thématiques qui permettent de dire si un projet est vertueux ou pas pour l'environnement. Et donc ça va s'appliquer aux sociétés d'investissement. Nous, au Crédit Agricole des Savoies, on est en train de finaliser, on va dire, notre nouvelle stratégie pour l'avenir du territoire et l'avenir du tourisme. Et c'est étonnant parce que Olivier parlait de Futur Désirable. C'est exactement le nom qu'on a donné à notre nouvelle stratégie. C'est identifier les futurs désirables du tourisme. Donc, on s'est forgé des convictions. Alors, cette stratégie, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce qu'on va la dévoiler début 2023. Mais pour autant, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on va mettre des moyens importants pour accompagner nos clients, pour accompagner l'écosystème dans des projets vertueux, dans des projets de futurs désirables.
Merci Cyril. Néanmoins, est-ce que tu n'aurais pas deux ou trois bribes d'informations à nous indiquer sur cette nouvelle stratégie ?
Bon, Elodie, c'est bien parce que c'est toi et qu'on est au cluster montagne. Oui, effectivement, on a quand même des grands sujets qu'on peut aujourd'hui dévoiler sans faute parce que c'est les sujets fondamentaux, on va dire, de la transformation de notre modèle. Le premier, c'est effectivement les projets de réhabilitation plus que de construction où il faut qu'on s'applique à essayer de trouver un modèle dans la réhabilitation de l'immobilier touristique qui sont de vraies passoires thermiques. Il ne faut pas oublier quand même que la Savoie et la Haute-Savoie, c'est 25% de bâtiments classés F et G. On est les derniers nationaux. Donc c'est un enjeu phénoménal. Un autre exemple sur lequel effectivement on est très vigilant, c'est l'hébergement décent des saisonniers sur tous les nouveaux projets, puisqu'on a bien vu aujourd'hui, d'ailleurs c'est une véritable prise de conscience des hébergeurs. Sans hébergement décent des saisonniers, ils n'ont pas d'employés et de ce fait ils ont des difficultés à ouvrir toute la saison ou d'une manière complète. Et puis encore peut-être un dernier point, c'est évidemment la mobilité, où on souhaite évidemment que la mobilité soit décarbonée. Et à ce titre, on avait pris des participations à hauteur de 25% dans le projet d'ascenseur valéen du Funiflen, qui malheureusement a été abandonné. Mais voilà, ce sont que quelques exemples et on verra pour la suite. C'était un petit teasing exprès pour le cluster montagne.
Merci de ta confiance Cyril et de ce partage d'informations. Olivier, il me semble que tu fais partie de la Fabrique des Transitions, tu confirmes ?
Oui, tout à fait.
Dont le président n'est autre que Jean-François Caron, qui était justement à tes côtés lors du lancement du cahier de tendance montagne le 8 novembre dernier. Est-ce que tu pourrais nous présenter ou nous détailler cette alliance qu'est la Fabrique des Transitions ?
Alors, Cyril a présenté Jean-François Caron en disant qu'il était maire d'une ville, une ville de Los Angeles. Cette ville est considérée comme démonstrateur du développement durable, c'est-à-dire un territoire dans lequel il y a eu un ensemble de transformations qui, mises bout à bout, produisent réellement une transformation en profondeur de ce territoire-là. De cette expérience-là qui a été beaucoup étudiée, on est sorti un certain nombre d'éléments méthodologiques qui sont au cœur du projet de la Fabrique des Transitions que Jean-François Caron dirige aujourd'hui, dans l'idée de pouvoir essaimer, accompagner d'autres territoires qui, eux, s'engagent dans ces mêmes transformations avec quelques années de retard, on pourrait dire. Mais ce qui est assez intéressant, plus que de dire de retard, c'est de dire que finalement, ce qui a conduit la transformation du territoire de Los Angeles, c'est la fermeture du bassin minier, donc la perte de tous les emplois qui étaient associés au travail de la mine, et qu'aujourd'hui, on retrouve finalement cette même contrainte au changement avec un impact beaucoup plus prégnant du réchauffement climatique sur nos stations, et qu'on se retrouve finalement dans une même situation que celle dans laquelle il était il y a quelques décennies en arrière, dans la conduite du changement à Los Angeles. La Fabrique des Transitions propose à des territoires d'avancer ensemble dans une logique de pair à pair, c'est-à-dire dans de l'échange de pratiques sur ces chantiers de transition, et s'appuie sur tout un réseau d'acteurs, des experts sur les différentes thématiques qui vont être essentielles à mobiliser pour vivre ces transitions, dont je fais partie sur le volet coopération.
Très bien. Allez, on termine avec la traditionnelle dernière question du podcast. Olivier, si tu devais qualifier le cluster montagne en trois mots, lesquels tu choisirais ?
Dialogue, ouvert et constructif, en précisant que c'est ici, au travers de ces cahiers de tendance, une première collaboration, une première découverte pour moi du cluster montagne, et que j'ai vraiment ressenti au travers de ce partenariat, de ces quelques expériences ensemble, que ce soit au moment de la présentation, au moment de la rédaction ou de la réalisation de ce podcast, toute l'ouverture qui est la vôtre, la contribution à la transition que vous amenez qui est précieuse, et la possibilité d'offrir à tous les acteurs de la montagne un espace de dialogue.
Merci. Et de ton côté, Cyril ?
Alors moi, j'ai trois mots qui se terminent un peu de la même façon. C'est d'abord rassembleur. pense que c'est important avec le nombre d'adhérents que vous avez et l'ensemble de l'écosystème auquel, dans lequel vous êtes finalement le chef d'orchestre un petit peu de tout ça. Bousculeur, parce qu'évidemment, on bouscule les idées, on veut faire bouger les lignes, donc c'est vraiment un sujet. Et innovateur, évidemment, parce que je crois que sans innovation, on n'arrivera pas à effectuer cette transition qui est nécessaire pour notre économie.
Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Olivier et Cyril pour ces échanges autour de la prospective. À bientôt.
Merci Elodie, au revoir.
Merci, à très vite.
Merci à tous d'avoir suivi ce 7e épisode et rendez-vous dans un mois pour le dernier podcast de la série des Clusters Mountain Insights. N'hésitez pas à le partager au sein de votre réseau. À bientôt.